Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Good morning business, le grand débat.
Et à 8h36, notre grand débat aujourd'hui avec nos spécialistes du monde bancaire. Éric Delannoy, bonjour, président de Tenzing Conseil. Il y a écrit spécialiste des banques sur ma feuille, donc je lis. Emmanuel Lechypre, Wilfried Galland, directeur stratégique chez Montpensier Finance. Et Jean-Philippe Cartier, merci. Vous n'êtes pas un spécialiste des banques, mais votre avis nous intéresse, président.
Il emprunte, de
voilà.
Il emprunte beaucoup.
Il emprunte
trop cher.
Et voilà, bah, ça fait de vous un bienvenu pour le sujet. Quel week-end, ce sauvetage de Crédit Suisse qui a fini donc par une vente de 3 milliards de francs suisses à UBS, les banques centrales qui annoncent une action préventive coordonnée, les banques régionales américaines qui demandent de l'aide. Antoine Larigaudry, bon, on est à 20 minutes de l'ouverture, ça va se passer comment ?
Moyen. A priori, oui, a priori de la baisse, ouais, effectivement. Il y a quand même un sujet, et on en a beaucoup parlé ce matin au sujet du sauvetage du Crédit Suisse, et c'était un sujet qu'on regardait de près avec Wilfried Galland, pour tout vous dire. C'est tout ce phénomène de dette subordonnée. C'est-à-dire que, bon, il y a une décote massive sur l'actionnaire. Ça, c'est évident. Mais alors là, il y a une petite surprise du chef, c'est ce paquet de dettes subordonnées, dette tier 1, c'est un paramètre assez technique, mais qui est très, très important. Ça veut dire que les détenteurs de ces obligations, ben, avant le week-end, ils avaient quand même 16 milliards de francs suisses d'obligations. Ce matin, ils ont zéro. Ça veut dire que dans le bilan de toutes les banques du monde, de HSBC qui a souffert de 7% à Hong Kong ce matin, des banques japonaises, etc., ben, tout ce corpus, j'allais dire, de dettes subordonnées, ben, il est anéanti de fait. Donc ça reste quand même un des phénomènes les plus marquants de ce sauvetage express du Crédit Suisse. Premièrement, la décote qui est imposée aux actionnaires, les actionnaires qui n'ont pas eu leur mot à dire d'ailleurs, hein, vu que le gouvernement suisse est passé par une sorte de bypass législatif pour imposer ce sauvetage. Et puis, ben, le fait que certains créanciers qui étaient censés être servis en premier, ben, finalement se retrouvent sans plus rien. Donc là, il y a effectivement des retombées sur les comptes des banques et sur le cours des banques en bourse qui risque d'être majeur, sans parler du phénomène des banques régionales américaines qui, lui, n'est absolument et toujours pas réglé.
Alors c'est intéressant, Antoine, parce qu'autour de ce plateau, il y a vraiment un débat, il y a des divergences. Que je voyais les réactions des uns et des autres. Éric dit, bah oui, c'est normal. Manu, il dit, Emmanuel Lechypre, c'est incompréhensible.
Non, il n'y a pas de débat, il y a ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas.
Non mais, c'est vrai, expliquez-nous pourquoi c'est...
Non, je ne peux pas, moi.
Wilfried.
T'es considéré comme quasi fonds propres.
Ouais, bah, oui. En fait, pourquoi c'est important? Bah, oui. C'est parce que, en fait, quand une banque, par exemple, subit un test de la Banque Centrale Européenne qui lui dit « Vous êtes en risque parce que vous ne respectez pas, dans certaines conditions, les ratios qu'on vous impose. » Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle lève des capitaux ou elle lève ce type de dette. Mmh. Et donc, ça
c'est
lui
plus
sert...
facile de lever ce type de dette.
Exactement.
Parce que c'est de la
et donc,
dette.
Ça lui sert pour répondre à ses obligations réglementaires. C'est ça. C'est pour ça que c'est important. Et donc, quand d'un seul coup, vous avez ces obligations qui ne valent plus rien, évidemment, elles ne pourront plus, pendant un certain temps,
être levées.
Jamais lever de la dette. Parce que personne
ne
va.
Plus rien.
Parce qu'en fait,
elles
ne valent plus rien.
C'était l'accord de la Suisse, là.
Parce que l'accord de la Suisse dit, en fait, les porteurs, c'est zéro.
C'est zéro. D'accord.
Voilà, c'est zéro.
C'est le gouvernement suisse qui a décidé ça.
Exactement.
Oui, alors, il a décidé ça. Eric. En même temps, c'est des contrats qui sont construits comme ça.
Oui, il n'y a rien d'illégal. Hein.
C'était le risque.
Les fameux coco bonds avec ce nom magique, c'est des obligations qui se convertissent en actions dès qu'un ratio n'est pas respecté. Le ratio n'est pas respecté sur Crédit Suisse, boum, c'est converti en action, l'action vaut plus rien, boum, les coco bonds vont plus rien.
Donc c'est logique,
c'est facile à comprendre.
Ouais.
Mais enfin là, oui, c'est important, mais qui va subir ça? Et c'était l'histoire des coco bonds. On a inventé les coco bonds pour éviter justement qu'il y ait une transmission des crises sur les contribuables, sur les États, pour que ce soit les actionnaires qui payent d'abord. Ce qui, en termes d'aléa morale, me paraît plutôt sain. Ensuite, quand on parle de ces fameux coco bonds qui sont une partie du core tier 1 le plus risqué, en fait, puisqu'ils sont des quasi-fonds propres. Ça veut dire que dans les ratios de fonds propres qui sont pris en compte dans les banques, c'est pris en compte, il y a ce qu'on appelle le RWA, hein, qui sont les actifs qui sont pondérés du risque qu'ils représentent. Plus vous avez des actifs risqués, plus vous devez mettre des fonds propres en face. Or, la Banque Centrale Européenne a été extrêmement rigoureuse depuis 2008 sur cette nécessité de mettre des fonds propres en face des actifs risqués. C'est pour ça que oui, c'est important, mais en fait, ceux qui vont payer, c'est pas très grave, bon. De mon point de vue.
On revient sur l'image plus générale de ce qui s'est passé ce week-end, Emmanuel Le Chypre. Est-ce que vous êtes rassuré ce matin? Est-ce que la crise, comme on l'a dit chaque jour, est derrière nous, sauf qu'à chaque fois, il y a un domino qui tombe? Ou est-ce que l'intervention coordonnée des banques centrales cette nuit en disant, bah, nous, on refinance tous les jours au closing toutes les banques qui le veulent, est-ce que ça veut dire qu'il y a des choses inquiétantes qu'on ne connaît pas encore?
Bah, ce qui est toujours compliqué, c'est d'essayer d'évaluer la proportion entre la vraie menace et l'arsenal qui est finalement déployé pour la juguler. Or, aujourd'hui, si comme 90% des cas, et je m'inclus dedans, ce qu'ont expliqué nos camarades qui sont des experts échappent à la majorité des gens, le signal qui est envoyé, au vu de l'ampleur de la réaction, c'est quand même que la situation est grave. Mmh. Et le problème, c'est qu'évidemment, chaque fois qu'une banque, et ça c'est quand même lié au secteur bancaire, c'est-à-dire que dès qu'on a une ou deux banques qui sont en difficulté, il y a toujours cette crainte du risque systémique. Et donc aujourd'hui, effectivement, on peut dire que chaque fois qu'il y a une banque ou deux qu'on fait faillite, ça n'a pas toujours dégénéré en crise bancaire, sauf qu'au début de chaque grande crise bancaire, on nous a toujours dit que c'était pas grave.
Ouais.
Vous voyez, et qu'on a déployé les outils. Et donc aujourd'hui, il y a quand même une inquiétude diffuse, très claire, sur la situation des banques.
Oui. Jean-Philippe, vous vous inquiétez ou pas ?
Je m'inquiète comme tout le monde, je regarde les infos et je m'inquiète quand je me réveille. Pour autant, Crédit Suisse, c'était quand même chronique d'une histoire annoncée. On en a parlé déjà sur votre plateau. Il y avait l'affaire Archegos, ils ont perdu 5 milliards. L'histoire du Mozambique, il y a un problème de contrôle défaillant total. C'est finalement quelque chose de logique. Donc c'est vrai que quand... Avec le départ de SVB, enfin l'allumage du problème SVB, bah les crises se cristallisent. Il est vrai que c'est aussi un problème de crise de retrait, et c'est là où nous, enfin, faut dire aux gens de arrêter de paniquer, parce que qu'est-ce qui s'est passé au Crédit Suisse en une semaine? Il y a 10 milliards d'euros d'argent qui ont été sortis des caisses.
Ouais. Si 10 milliards par jour.
Très objectivement,
10 milliards par jour.
Je fais très attention à mes propos sans citer personne, mais les banques européennes, je parlais avec un ami hier soir pour m'intéresser bien au sujet, qui se dit très rassuré sur l'état des banques européennes, sur la qualité des comptes. Le Crédit Suisse qui devient sa banque d'investissement, qui a fait un nombre d'erreurs mais colossal, qui va devenir un méga géant fusionné avec UBS de la gestion de fortune, qui va gérer 5000 milliards, qui est une activité extrêmement rentable, c'est aussi une suite logique. Donc on aime à se faire peur tout le temps. La semaine dernière c'était Wall Street, la SVB. Il est vrai que c'est pas rassurant. Les banques, les 16 milliards, c'est beaucoup d'argent, mais l'un dans l'autre, ça va pas faire mal à beaucoup de banques. Et l'un dans l'autre, c'est pas le particulier qui va toucher.
On aime à se faire peur, d'accord. Mais quand il y a une action coordonnée des banques centrales...
Mais c'est leur rôle d'avoir une action coordonnée, comme quand il y a eu le Covid, il y a une action coordonnée des États pour nous couvrir de certains maux. C'est leur rôle de gérer ces problématiques.
C'est pas plus compliqué
que ça. Non, mais c'est tout le problème de la prévention. Est-ce que la prévention montre qu'un problème est grave, ou est-ce que la prévention est là pour éviter qu'un problème devienne grave?
Voilà.
Je veux dire, c'est tout ce sujet-là. Or, il se trouve que la plupart des gens, comme l'évoquait Emmanuel, ne connaissent rien ces systèmes-là. Ils ne se souviennent que d'une chose, c'est 2008. Mais après 2008, il y a eu 2011. Après 2011, il y a eu 2016. Après 2016, il y a eu 2020. À chaque fois, il y a eu ce problème de risque systémique qui n'en était pas un. Ouais. Les mécanismes de propagation ne sont pas là, contrairement à 2008. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des mécanismes de propagation qui étaient des dettes pourries, qui étaient titrisées et vendues à la terre entière. Là, ça n'existe pas.
Alors moi, je ne joue pas, je ne veux pas me faire peur, mais je lis le Figaro ce matin, qui nous dit que des grandes banques européennes, au moins deux, examinent les scénarios de contagion et se tournent vers les banques centrales américaines et européennes pour obtenir des signaux de soutien plus forts. Ce qui s'est passé cette nuit avec cette action coordonnée, Wilfried.
En fait, c'est la très bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on a une action coordonnée des banques centrales. Ça, je trouve que c'est une très bonne nouvelle parce que ça assure l'essentiel dans un système financier qui est la liquidité. Ça, c'est majeur parce qu'on sait que dès qu'on retire de la liquidité, dès que la liquidité se bloque, tout tombe. 2000. Toute la question, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte très vite de retrouver la confiance. C'était les prix Nobel d'économie 2022.
Bernanke,
Douglas Diamond et Philippe Difkin qui ont dit dès lors que une rumeur atteint une banque, ses ratios de solvabilité se dégradent automatiquement.
Et donc toute la
question maintenant, c'est effectivement, c'est pour ça que c'est très important d'avoir des actions coordonnées et des actions fortes de la part de tous les acteurs pour montrer que tout le monde est mobilisé. Et ça aurait été encore mieux effectivement si on avait eu une perte supplémentaire pour les actionnaires par rapport aux porteurs d'obligations. Pour la partie Crédit Suisse, c'est tout ce qui me gêne un petit peu. Oui, c'est qu'en fait, ça introduit le doute. Ça introduit
la notion de coco monde, ça revient un petit peu à ça. Enfin,
pas tout à fait.
On n'est pas loin. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont. C'est un amortisseur qui avait été fait pour que après les actionnaires, ce soit les porteurs d'obligations.
C'est la différence entre pas loin et parfait.
Vous avez peur, pour citer une chose très clairement, Wilfried, vous avez peur que les coco bondes, là qu'on découvre ce matin avec vous, ce soit un petit peu les créances douteuses de 2008.
Ça n'a rien à voir. Le sujet, c'est effectivement, après, comment est-ce qu'on restabilise tous les acteurs qui vont avoir besoin probablement d'action et qui vont ne plus pouvoir utiliser ce levier-là.
La stabilité, c'est la confiance. Et c'est ce que font tous les politiques, tous les matins, américains, français, encore à côté de chez vous, toutes les secondes pour dire c'est pas grave, tout va bien. C'est aussi la confiance.
Le communiqué de la BCE hier soir, c'était la stabilité financière.
Qui veulent récupérer les fonds en un quart d'heure, c'est un vrai problème de confiance.
Mais à la fois, il y a des spécificités, c'est-à-dire que c'est enfin les cas de type SVB, c'est-à-dire que être dépendant d'un seul secteur quasiment dans son activité, donc d'un seul type de client, et évidemment quand ces clients vont mal, ils veulent récupérer leur argent, c'est pas la majorité des banques. Deux, après, moi, si on pensait que le resserrement monétaire avec la violence qui a été la sienne, si on pensait que ça serait sans aucune secousse et sans aucun impact sur le système bancaire mondial, je pense qu'on était un peu quand même optimiste. Ah ouais. Parce que le vrai, moi, pour le coup, et c'est là où on n'est pas du tout dans un scénario à la 2008, etc.
Bien sûr que non.
C'est que moi, je crains qu'effectivement, ce resserrement monétaire et le resserrement de la liquidité aussi par les banques centrales, c'est ça qui, aujourd'hui, à mon avis, fragilise les banques.
Emmanuel, on ne peut pas être d'accord sur le resserrement monétaire.
Effectivement, il va avoir un impact d'abord sur les entreprises et sur les ménages qui vont avoir un resserrement de l'investissement et du crédit, ou un resserrement du crédit, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Maintenant, les banques n'ont jamais eu autant de liquidités. L'augmentation des taux, elle a d'abord un effet, c'est que les dépôts qui sont donnés des banques commerciales vers la banque centrale vont être rémunérées juste de 0,5 de plus. Donc en gros, c'est un cadeau qui est fait aux banques. Donc faut arrêter de prétendre. Et en plus, si on se projette à 12 mois, les taux d'intérêt, c'est la mine d'or.
Le retrait des liquidités, c'est pas un cadeau aux banques.
Absolument. Moi, je voudrais juste, pour ne pas faire apparaître l'angéliste de la bande quand même, s'il devait y avoir une inquiétude, je la mettrais aux côtés des États-Unis. Parce que aujourd'hui, on parle plus de SVB, c'est tout petit par rapport à
les banques régionales.
Mais le problème de SVB traduit une chose qui n'existe pas en Europe, c'est la dérégulation du système bancaire américain. C'est ça qu'a traduit SVB. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont laissé faire le fait qu'une banque puisse avoir 80% de ses actifs dans des obligations qui étaient illiquides. Ce qui est stupide par rapport au ratio de liquidité qu'on demande à des banques normales.
Le gouverneur de la Banque de France, Ulrich Gallo, vendredi sur ce plateau, nous expliquait qu'il y avait simplement, je crois, 11 banques américaines qui sont soumises à Bâle 3 contre 400 banques européennes.
Absolument. Et ça, c'est une vraie inquiétude. Parce que pour le coup, on ne sait pas comment les petites banques américaines sont gérées.
Je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais je te rappelle qu'en 2008, on a tenu exactement le même scénario. Ça vient des États-Unis, etc. Nous, en Europe, on ne craint rien. Ce qui était vrai.
C'est à quel point ils nous importent leurs problèmes. Redire
aujourd'hui, c'est aux États-Unis, c'est un problème spécifiquement américain.
Ça marche pas.
Nous, en Europe, on est bien régulés, etc. On nous avait sorti le même discours.
Que depuis ce temps-là, l'Europe a fait énormément de progrès dans la régulation, que cette régulation a réussi à se mettre en place aux États-Unis sous Obama et que Donald Trump l'a enlevé en 2017.
Eric, puisque toi, tu viens de faire part de ton inquiétude, moi, je fais part de la mienne. C'est qu'on a eu, grosso modo, cette conjonction de hyper liquidité pendant des années, plus ce resserrement des contraintes sur effectivement les banques, etc. À mon avis, le risque, il est parti où? Il est parti dans tout ce qui est finance parallèle. Et ça, moi, j'avoue que là-dessus, c'est compliqué de voir. Je sais pas ce qu'en pense.
Vous dire ce qu'il y a dans finance parallèle.
Finance parallèle, c'est les fonds d'investissement, etc.
C'est là où on ne sait pas où va l'argent.
Est-ce que c'est un gros risque?
Le resserrement des taux, il a été. Pardon pour revenir sur SVB, mais le resserrement des taux, ça a été typiquement ce qui a créé la chute de SVB en l'espace de 48 heures. Exactement. C'est typiquement le resserrement des taux. À partir de là, on pense que ça va se calmer. D'ailleurs, ils se détendent. L'Euribor 3 mois, il perd 0,4 en 3 heures. Et Christine Lagarde annonce une hausse de taux de 0,5 points. Moi, j'étais le premier hyper étonné. Ils vont peut-être se détendre. Ça va un petit peu se calmer.
On verra ce que fera la réserve fédérale mercredi soir.
Pas de calendrier pour la suite.
Pas de calendrier pour la suite. Donc, je pense que ce resserrement, il s'est fait de manière hyper violente. Que la trésorerie abondante des banques, elle vient de l'après-Covid, où il y avait des trillions de dollars partout en banque, parce que les gens n'ont pas dépensé ou économisé. Ça va vite. aussi à être retirés. Donc je pense qu'il faut redonner un petit peu de souplesse au système, et tout ça revient d'un mot que j'emploie tout le temps, la confiance. Pour redonner de la souplesse, il faut redonner de la confiance.
Mais par exemple, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes investisseur, ce serait quoi le signal de retour de la confiance que vous attendriez?
Moi, je trouve que sur la hausse des taux, elle a été, on l'a évoqué 10 fois trop rapide.
Et bien sûr.
Voilà. 10 fois trop rapide, pas 2 fois trop, pas 3 fois trop, 10 fois trop rapide. On ne peut pas passer de 0,8 à 1,20 à 5,20, 5,40. C'est trop rapide. Voilà.
Wilfried.
Et ça impactera les banques à un moment ou à un autre.
Non, en fait, ce qui me frappe beaucoup, c'est que dans l'affaire suisse, on a eu effectivement à la fois le secteur privé avec UBS, l'État suisse avec effectivement le Trésor suisse et la Banque centrale qui ont travaillé main dans la main. Avec, bon voilà, peut-être des choses à revoir, mais en tout cas, il y avait véritablement eu ça. Aux États-Unis pour l'instant, c'est là où je rejoins, c'est un des points sur lesquels je rejoins Eric, aujourd'hui, on n'a pas eu encore d'impact très fort du secteur privé. On a eu ces fameux 30 milliards qui ont été mis dans des comptes de dépôt par les grandes banques américaines pour aider SVB, mais c'est tout. Et en fait, le sujet maintenant, c'est on constate que par rapport aux précédentes crises qu'on a connues, par exemple au début du XXe siècle, on avait les financiers américains qui se réunissaient en disant, par exemple, je pense au crack du cuivre de 1907, disant
la fameuse réunion de Madison,
exactement, la réunion de Madison où John Pierpont Morgan enferme physiquement ses collègues dans la salle en disant on ne sortira pas de la salle tant qu'on n'aura pas trouvé une solution, et on investit nous parce qu'on a la responsabilité nous financiers de sauver le système qui nous aide à faire de l'argent.
Les gens mal habitués maintenant, puisqu'on sait que dans tous les cas, les banques centrales interviennent.
Mais aujourd'hui, justement, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on attend le vieux Warren Buffett, 91 ans, qui devrait donner peut-être un signal d'investissement dans les banques régionales, alors que tous les moguls de la Silicon Valley, il n'y en a pas un qui s'est
mobilisé.
À l'inverse. À l'inverse. Exactement.
Non, mais justement, enfin, les enseignements de 2008, parce qu'il ne faut pas raisonner comme si on était avant 2008. Depuis 2008, il s'est passé énormément de choses par rapport à la réglementation bancaire. Et par rapport à ce que vous dites tout à l'heure, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a des mécanismes de résolution de crise qui ne mettent pas en jeu les États, qui ne mettent pas en jeu les contribuables.
Ouais.
C'est que les banques vont se prendre en charge elles-mêmes.
Ouais.
UBS rachète Crédit Suisse. On a un fonds de résolution unique en Europe qui est doté de 555 milliards s'il y avait un problème en Europe. Et on a maintenant... Les cocobons ont été faits pour ça. C'est des mécanismes qui ne sont pas accessibles au grand public parce que ce sont des mécanismes très spécialisés qui sont pris en charge par des acteurs spécialisés.
Mais c'est les banques qui prennent en charge ou c'est les banques centrales qui feront tourner la...
Une partie des banques qui, enfin, la diffusion du risque sur les coco bonds va faire que l'impact sera sur chacun de ces... Mais je ne vais pas les plaindre, ces gens-là. Ils ont pris un risque. Ils ont été d'ailleurs rémunérés très fort par rapport à ce risque. Ils ont pris leur risque. Et normalement, comme ils ont été correctement régulés, ce risque est pris en compte dans leur bilan. Je voudrais ajouter une chose. C'est qu'on ne parle jamais des provisions bancaires. Les provisions, c'est cette partie des bénéfices que les banques mettent de côté pour faire face aux risques qu'ils ont. Les provisions bancaires n'ont jamais été aussi élevées dans le monde. Pour deux raisons. La première, c'est que les bénéfices des banques n'ont jamais été aussi élevées, et pour éviter l'impôt, bon, c'est pas très politiquement correct de dire ça, mais pour éviter l'impôt, elles mettent le plus de provisions possible de côté, premièrement, et deuxièmement, parce que les risques sont importants. Comme l'évoquait tout à l'heure Jean-François, Crédit Suisse, on connaît les problèmes depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Mais vous imaginez bien que l'ensemble des banques s'est couvert sur le problème Crédit Suisse depuis 2 ans et a des provisions face à ces problèmes de crédit.
Mais donc c'est fini là. On va avoir un peu de correction à l'ouverture et après c'est fini.
J'en sais rien parce que la spirale de la peur, le problème c'est qu'on ne sait pas où elle s'arrête. C'est qu'il suffit que quelqu'un déclenche quelque chose.
Reste une minute.
Deux remarques. D'abord, un bank run, vous pouvez avoir la banque la plus solide du monde avec
bien sûr
ce que vous voulez. S'il y a un bank run, la banque elle est par terre. Ça, c'est une chose. Et puis attention au raisonnement qui consiste à dire. On a pris les mesures qui ont permis de résoudre la crise précédente. Or, on a toujours l'expérience qu'une nouvelle crise ne vient jamais du même endroit que la crise précédente. C'est la fameuse phrase, genre, on referme toujours la porte de l'écurie du cheval qui s'est enfui. C'est-à-dire qu'en gros, vous mettez un verrou et le cheval s'est déjà enfui. Voilà.
Mais tous ceux qui ont acheté des bancaires en 2008 étaient ravis 5 ans après de les avoir en portefeuille.